France Culture.
Et on retrouve Mélanie Kuzelevic pour le journal de la rédaction. Bonne journée Mélanie.
Bonne journée Nicolas, bon rétablissement et bonjour à tous. Jour d'élection présidentielle au Gabon, après le coup d'État qui a renversé la famille Bongo, c'est le général putschiste qui fait figure de favori. Aux États-Unis, les dockers redoutent les conséquences des droits de douane imposés à Pékin sur leurs activités. Et puis, focus sur une expérimentation pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. Le Gabon s'apprête à vivre une élection présidentielle historique. Les Gabonais sont appelés aux urnes aujourd'hui, 19 mois après le coup d'État qui a renversé la dynastie Bongo, qui régnait sans partage sur le pays depuis plus de 50 ans. Au total, 8 candidats se présentent, mais l'un d'entre eux éclipse les autres. Le général Brice Oligui Nguema apparaît comme le grand favori. C'est lui qui a pris le pouvoir et qui a changé la constitution afin que les militaires puissent se présenter à l'élection présidentielle. Un favori qui semble avoir réussi sa mue puisqu'il est passé de putschiste à homme politique crédible, Nathanaël Charbonnier.
C'est vrai que le président de transition et candidat Brice Oligui vient de l'ethnie la plus importante du pays. C'est vrai qu'il est issu du fief de la famille Bongo, qu'il a été aide de camp du père Omar Bongo et chef de la garde républicaine du fils Ali Bongo. Mais ce passé ne semble pas compter pour l'élection présidentielle qui arrive, car l'homme a réussi sa mue, explique l'analyste politique Lysiane Neyer.
Il apparaît comme un homme neuf en politique. Aujourd'hui, il a démontré ses capacités à faire de la politique de manière assez habile, vu qu'il arrive à créer une véritable adhésion autour de lui. En plus de ça, il a rajouté une touche pragmatique parce que il s'est rapidement mis au travail sur des questions qui touchent véritablement les Gabonais, qui sont les questions de développement. Nous l'avons vu en 19 mois réaliser de nombreux chantiers et je pense que c'est ces deux touches combinées qui font en sorte que les Gabonais voient devant eux un personnage neuf.
Le général Oligui favori, mais pas totalement seul, car parmi les autres candidats en lice figure l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibizet. Les résultats sont attendus avant le 16 avril prochain.
Nathanaël Charbonnier. Début des négociations sous haute pression sur le nucléaire iranien à Oman. L'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, rencontre le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Washington veut stopper le programme nucléaire iranien et accuse l'Iran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Téhéran nie et affirme que son programme n'est utilisé qu'à des fins civiles. Donald Trump n'exclut pas d'avoir recours à la force en cas d'échec des négociations. Les droits de douane inquiètent les dockers américains. Jusqu'à 145% de taxes au total pour les produits chinois qui entrent sur le sol américain. En clair, toute marchandise qui arrive de l'Empire du Milieu va coûter 2,5 fois plus cher, ce qui aura des conséquences pour le port de Los Angeles, en première ligne dans les échanges commerciaux avec la Chine. Loïc Piala.
À quai, sur les navires ou accrochés aux poids lourds qui rejoignent l'autoroute. Ces milliers de conteneurs que l'on voit en traversant le port de Los Angeles sont chargés au moins à 40% de marchandises venues de Chine. Alors Gene Seroka, le directeur du plus grand port des États-Unis, se prépare pour l'impact des droits de douane.
J'anticipe une baisse de volume d'au moins 10% de juillet à la fin de l'année. Mais cette baisse pourrait se sentir dès le mois prochain.
Dans le port voisin de Long Beach, la baisse de volume pourrait atteindre 20%. Et moins de conteneurs qui rejoignent le pays, c'est moins de travail pour les routiers et moins d'heures supplémentaires pour les dockers.
Incertitude, c'est le terme le plus adapté pour décrire la situation.
Gary Herrera est le président de l'antenne locale du syndicat ILWU. Il représente 9000 dockers.
On vit près du port, on va au marché, dans les petits commerces. Si notre activité au port diminue, toute la communauté sera affectée.
Gary Herrera s'inquiète aussi pour ceux qui ont tout perdu après les incendies de janvier. Pour reconstruire, ils ont besoin de bois, d'acier, d'électroménager ou de meubles. Avec les droits de douane, les prix vont grimper.
Loïc Piala. En France, 3 hommes sont mis en examen soupçonnés d'être impliqués dans l'enlèvement de l'influenceur algérien surnommé Amir DZ et opposant au régime. Parmi les hommes placés en détention, l'un travaille dans l'un des consulats d'Algérie en France. Le 29 avril dernier, l'influenceur a été enlevé pendant plus de 27 heures. Divisé la semaine dernière, les forces de gauche se joignent au Rassemblement pour la démocratie et l'état de droit. Manifestation à l'appel de syndicats et d'associations pour dénoncer les attaques de la justice suite à la condamnation de Marine Le Pen et de plusieurs responsables du RN. On y revient à 12h30 avec Denis Salas, ancien magistrat, enseignant associé à l'École nationale de la magistrature. Il sera notre invité dans le journal. Les intentions d'embauche des employeurs pour cette année sont en baisse de 12,5% par rapport à l'année dernière. C'est le résultat d'une enquête annuelle de France Travail. Face à ce constat, l'agence veut mettre en place des dispositifs pour favoriser l'emploi des publics prioritaires. Exemple avec cette expérimentation menée auprès des personnes en situation de handicap. Fleur Caron.
Le sourcing inclusif, c'est le nom de cette expérimentation. La première étape, identifier les entreprises engagées en faveur des personnes en situation de handicap selon des critères très précis. Ces entreprises pourront ensuite accéder sur la plateforme de France Travail au profil des personnes en situation de handicap. Seulement celles qui acceptent de rendre cette information visible. Aymeric Morin est directeur général adjoint délégué à l'offre de services de France Travail.
L'idée, c'est de se dire qu'on va permettre comme ça que d'une part, des recrutements qui ne se seraient pas faits autrement se fassent, et puis d'autre part, qu'on parle du handicap dès le recrutement, et c'est absolument un enjeu clé en France pour permettre l'insertion de ces publics dans l'emploi et dans l'emploi durable.
Aujourd'hui, 8% des demandeurs d'emploi sont en situation de handicap. Cette mesure répond à un besoin, nous dit Hugues Defoy. Il est directeur général par intérim de l'AGFIP, l'association d'aide à l'emploi des personnes en situation de handicap. Normalement, les entreprises devraient embaucher 6% de travailleurs handicapés. On est encore loin du compte.
Le taux d'emploi, il progresse. On est à 3,6% de taux d'emploi. Mais il y a encore, évidemment, des choses à faire. Oui, ça reste aussi une source, entre guillemets, de discrimination. On est plus longtemps au chômage quand on est en situation de handicap. Il faut continuer, évidemment, à se mobiliser pour que les entreprises puissent se tourner vers tous les talents et donc, bien évidemment, des personnes en situation de handicap.
D'autres publics dits prioritaires sont aussi visés par les stratégies mises en place par France Travail. Des interventions, par exemple, en collaboration avec les missions locales sont prévues dans tous les lycées professionnels. Ce sera à partir de la rentrée 2025.
Et puis un mot de météo avec encore un peu de soleil au nord, mais des nuages partout ailleurs.